SMS, j'ai envoyé un petit SMS pour vous dire le texte. C'est le texte qu'on avait commencé peut-être deux semaines en arrière déjà. Donc 1 Timothée chapitre 4, épître de Paul à Timothée au chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 1. Donc c'est toute une série d'exhortations ici dans ce chapitre que Paul adresse particulièrement à Timothée. Donc il y a beaucoup de recommandations, si vous pouvez en noter plusieurs, des impératifs qu'il donne donc à Timothée. À partir du verset 1, nous lisons « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes, exerce toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et nous te demandons que par ton esprit, tu illumines nos cœurs, nos pensées, afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi, que tu nous donnes aussi des cœurs soumis pour mettre ta parole en pratique, à la gloire de ton nom. Amen. Voilà, donc toute une série d'exhortations que nous avons ici dans ce quatrième chapitre de cette lettre de Paul à Timothée. On avait considéré les versets 1 jusqu'au verset 2. Je crois, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé de l'apostasie. C'est une exhortation, un avertissement contre l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, que Paul donne ici à Timothée. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, se détourneront de la foi pour pouvoir s'attacher à des esprits séducteurs. Là, on se détourne de la foi pour s'attacher, on avait souligné ça, à des esprits séducteurs, pas simplement à des personnes, mais à ceux qui inspirent même ces personnes, des esprits séducteurs, dit-il, et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Les faux docteurs, c'était donc les vecteurs, les moyens par lesquels se propageait la fausse doctrine, inspirée par les démons, par le diable et par les esprits séducteurs. Ils portent dans leur corps les marques de la flétrissure. Et puis, on avait considéré donc la réalité que Paul soulignait à Timothée, en tout cas la réalité de l'apostasie. L'apostasie, l'abandon de la foi, c'est quelque chose qui est réel. Les gens entendent et puis se détournent de la foi. Ici, et l'Écriture contient des exemples. On l'avait cité Démas, par exemple. Il dit Démas, l'apôtre Paul dit, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Voilà. Donc l'Écriture contient des exemples. On avait souligné ça. En second lieu, on avait vu que Paul traite de la nature de l'apostasie. Il parle de sa source, hein, des esprits séducteurs. Il parle des instruments humains qui sont utilisés. Hein, ce sont les faux docteurs. Et puis en troisième lieu, on n'en a pas vu cela, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il parle du contenu de ce que disent les faux docteurs, leurs prescriptions, on pourrait dire. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Donc c'est cette troisième partie que nous voulons considérer ici, dans cet avertissement que Paul donne à Timothée concernant l'abandon de la foi. Et donc, on a ici des faux docteurs qui prescrivent quelque chose, et l'apôtre Paul va apporter une réfutation, il va réfuter en tout cas ce que disent ces faux docteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Quelles sont les prescriptions des faux docteurs? Ils disent ici, ils prescrivent deux choses. Quelles sont ces deux choses? De ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments. Franchement, si on vous avait demandé, il y a quelque part dans tel lieu des faux docteurs, qui ne prêchent pas selon la parole de Dieu. Imaginez ce qu'ils disent. Et certainement, notre pensée serait allée à, ils ne croient pas dans la divinité de Jésus-Christ, peut-être. Ou peut-être qu'ils prêchent un salut par les œuvres. D'accord? Ou peut-être qu'ils ont une doctrine erronée concernant la résurrection corporelle. Et ces choses-là. Donc, on aurait pensé certainement à des choses comme cela, ici. Mais, regardez ce que Paul dit. C'est pas de ce qu'il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il donne comme substance, on pourrait dire, de leur fausse doctrine, ici? Le mariage et la nourriture. C'est étrange comme chose. Hein? Mariage et nourriture, ici. Pourquoi? Mais parce que le diable, il se sert de tout. Tous les aspects de la vie sont des portes, peuvent constituer des portes d'entrée pour le diable et les esprits séducteurs, que ce soit le mariage, que ce soit la nourriture, que ce soit les habits, que ce soit la musique, que ce soit, je sais pas, n'importe, il peut rentrer par ce biais-là, pour pouvoir après aller plus loin, bien entendu. Hein. Mais on a vu, ce sont des esprits séducteurs. Hein. Il rentre pas avec ses gros sabots, comme quelqu'un disait, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Pas du tout, hein. Il n'annonce pas sa venue. L'épître de Jude dit que ce sont des gens qui se sont glissés furtivement avant de les découvrir, ça met un certain temps. Donc, voilà, il dit, ce sont des gens qui ont des prescriptions concernant le mariage et la nourriture, particulièrement. Peut-être leur but n'était pas que d'en rester qu'à là, mais ils voulaient aller plus loin. Il dit donc, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Le mot traduit par prescrire, ça veut dire empêcher, refuser, s'opposer. Donc il y a une espèce de vigueur là-dedans. Il s'oppose au mariage et il demande vraiment l'abstinence sur certaines nourritures. Alors on peut imaginer ces personnes disant, bien sûr, certes, il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Okay. Mais une fois que l'on a cru en Jésus-Christ, on a parlé dimanche matin de la sanctification, il faut la sanctification, et la sanctification, eh bien, si on est marié, on peut pas vraiment connaître une vraie sanctification. Ou, si on mange de tout, on peut pas avoir une bonne sanctification. Il faut pas manger ces aliments-là, il faut pas se marier, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, ou bien il faut faire ceci, et puis il faut faire cela. Donc, ils avaient certainement des choses qu'ils présentaient à côté de l'évangile. Et c'est toujours comme ça, hein. On ne rejette pas l'évangile de la grâce en bloc. On prétend l'adopter, l'accepter, mais en même temps, on présente à côté des choses qu'il faut ajouter pour être véritablement spirituel. Et donc, ne pas se marier pour ces docteurs-là et ne pas toucher les aliments, ça ne veut pas dire ne pas manger du tout, hein, mais ça veut dire, peut-être s'abstenir d'une certaine quantité d'aliments, eh bien, c'était une marque de spiritualité. Alors, l'apôtre Paul, alors, on peut se poser la question, d'où vient cette vision des choses, hein, ici? Alors, certains spécialistes pensent peut-être qu'il y avait là la pensée, l'influence de la pensée philosophique de ce qu'on appelait les dualistes, hein, les gens qui croyaient que la matière est fondamentalement mauvaise, hein, et l'esprit est bon. Et les deux s'opposent entre eux. Donc tout ce qui touche à la matière est mauvais. Le mariage, ça touche le corps. Parce que quand il parle de mariage, il ne parle pas d'institution du mariage. Hein, il parle de la relation intime physique qu'il y a dans le mariage. Donc ça, ça concerne le corps. Et puis la nourriture aussi, ça concerne le corps. Et donc, tout ce qui a trait au corps, il faut vraiment mépriser cela parce que c'est un obstacle à l'élévation spirituelle. Hein, on pourrait dire que c'est comme ça qu'il présentait les choses. Donc peut-être qu'il y avait cette influence-là. Et on parle aussi, certains parlent aussi de l'influence de ce qu'on appelait une secte juive qu'on appelait les Esséniens, vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, qui ont vécu au deuxième siècle, c'est écrit au deuxième siècle avant Jésus-Christ, et il y avait une communauté qui s'appelait la communauté de Qumran. Qumran, ça vous dit quelque chose, hein, les manuscrits de la mer morte, etc. Et donc c'était des ascètes et des dualistes purs et durs. Et j'ai trouvé ce commentaire sur un site chrétien. Ils disent que les dualistes et ascètes, les Esséniens, voyaient dans la matière la source du mal et dans le corps la prison de l'âme. Ils tenaient le mariage en mépris. Leurs exercices tendaient tous à délivrer l'âme du corps. Ils repoussaient la doctrine de la résurrection des corps aussi énergiquement qu'il affirmait l'immortalité de l'âme. Donc vous voyez déjà un petit peu le lien. Par exemple, ces personnes parlent de ne pas manger certains aliments, probablement parce que ce sont des choses qui affectent le corps, et puis que le corps, après tout, c'est une mauvaise chose, donc il faut chercher à se libérer de tous les plaisirs du corps. Hein. Mais chemin faisant, cela peut conduire au mépris même de la résurrection, hein, au rejet de la doctrine de la résurrection du corps. Parce que la Bible parle de la résurrection du corps. Mais si le corps est mauvais, pourquoi parle-t-on de la résurrection du corps? Donc vous voyez, ça commence comme cela, par la nourriture, et puis ça peut terminer, comme pour ces Esséniens, par le fait de repousser la doctrine de la résurrection. Quelqu'un écrit ceci, un commentateur écrit que... vers la fin du deuxième siècle, Irénée a précisé que certains disciples d'un gars qui s'appelait Saturnin prônent que le mariage et la naissance, la génération, le fait d'engendrer, viennent de Satan. La plupart de ses disciples s'abstiennent de viande et trompent nombre d'hommes par cette tempérance simulée. Il ajoute que cette tendance philosophique a connu son apogée parmi les moines et les ermites du IVe siècle, qui se sont exilés dans le désert égyptien pour y vivre entièrement, coupés de toute civilisation. Il dit là, ils se sont employés leur vie durant à mortifier la chair. Un d'entre eux, il dit, s'abstenait de tout aliment cuit, si bien qu'il est devenu d'une maigreur légendaire. Il dit, un autre se tenait debout toute la nuit au bord d'une falaise pour résister au sommeil. Sommeil dans le corps, empêcher le corps de dormir pour le maîtriser. Un autre encore est passé à la postérité en laissant son corps devenir si sale et si négligé que la vermine en tombait lorsqu'il marchait. Il dit, et encore un autre s'est forcé de manger du sel en plein été pour ensuite se priver d'eau. Avoir soif à un tel point et puis se priver d'eau. Chercher à se maîtriser vraiment, à ne pas répondre aux besoins du corps. Il dit que l'heure de vie, c'était un corps sain et nécessairement synonyme d'une âme souillée. Il y avait vraiment une distance qui devait être mise entre le corps et puis l'esprit. C'était peut-être un petit peu ça qui pousse un peu ces gens-là dans l'église d'Éphèse, donc, que Paul décrit ici, à avancer cette doctrine de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments. Ce que sous-tend la doctrine, c'est que le péché a son siège dans le corps, dans la chair, hein, n'est-ce pas? Alors que la Bible dit, non, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches. Donc quelqu'un peut se mortifier autant qu'il veut extérieurement, se priver autant qu'il veut extérieurement, si le cœur n'a pas été transformé, rien ne, il demeure aussi orgueilleux, aussi mauvais qu'il l'était avant de le faire. Et donc c'est ça qui sous-tend cette doctrine. C'est pas dans le corps que se trouve le problème. Le problème du péché n'a pas son siège dans le corps, il a dans le cœur, il est pensé. Hein. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu par nos actions, par nos actes, ou par nos paroles et par nos pensées. D'accord. Donc il y a les actes, bien sûr, mais aussi, hein, je peux donner un coup de poing à mon frère, c'est un péché, parce que c'est un acte, mais l'acte, il provient d'un cœur qui est mauvais, qui est corrompu. Alors le diable, bien sûr, sème le doute hein, dans les esprits des croyants concernant le mariage et la nourriture. On trouve d'autres passages dans l'Écriture où cette question sur le mariage et puis sur la nourriture est posée. Par exemple, en 1 Corinthiens chapitre 7, qui est le grand chapitre sur le mariage, l'apôtre Paul doit répondre à une question des Corinthiens. On avait traité ça dans le temps. Hein, et cette question, probablement, vu la réponse que Paul donne, c'était probablement des personnes qui sont devenues chrétiennes, issues du paganisme, et qui maintenant se posent la question de la relation sexuelle dans le couple. Hein. Et est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Et si vous lisez, on n'a pas le temps de le lire, mais si vous lisez 1 Corinthiens 7, versets 1 à 7, vous allez voir que l'apôtre Paul, il insiste là-dessus. Il dit que l'homme ne se sépare point de sa femme, il dit qu'ils doivent rester ensemble, sinon pour vaquer à la prière, etc. On va pas revenir là-dessus, mais c'était le fond de leur question. Étant devenu chrétien, ils pouvaient penser, parce ils entendent les philosophies qui tournent autour, que le corps maintenant il est mauvais, et que ce que l'on peut faire avec le corps est mauvais, et donc peut-être que est-ce qu'on n'a plus le droit d'avoir, étant marié, des relations avec son conjoint. Alors Paul, il traite de cela. Et puis en Colossiens chapitre 2 verset 16, il parle aussi de la nourriture. Hein. Il dit pourquoi dites-vous ne touche pas, ne mange pas, ne bois pas. Il dit ce sont des préceptes qui viennent de traditions humaines et qui ne sont pas là pour glorifier le Seigneur, mais qui sont là pour exalter la chair. Donc, voyez, il y avait ces questions. Dans Romains chapitre 14, par exemple, l'apôtre Paul parle encore de problèmes de nourriture. Il y en a qui mangent de tout, puis d'autres qui mangent pas de tout. Et puis, les uns, pointent les autres du doigt. Et l'apôtre Paul doit venir et puis régler aussi cette question de la nourriture. Donc, vous voyez que c'est un domaine, nourriture et mariage, relations physiques, dans lequel le diable s'immisce très souvent pour semer la zizanie. Alors, par exemple, en 1 Corinthiens chapitre... donc, je vais dire plutôt une chose, c'est que les abstinences, par exemple, dans ces deux domaines-là, ne sont pas interdites par la Bible. Hein. Alors là, l'apôtre Paul réfute l'élévation en doctrine du fait de ne pas se marier et puis de s'abstenir de certains aliments. Il va réfuter cela. Mais dans l'Écriture, on trouve des endroits où l'abstinence de nourriture ou bien le fait de ne pas se marier n'est pas vu comme quelque chose de mal. Hein. Par exemple, en 1 Corinthiens 7, verset 38, qui est le grand chapitre sur le mariage, encore une fois, l'apôtre Paul dit « Celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Hein. » Quelque part, il est en train de montrer la beauté, on pourrait dire, hein, du célibat aussi. Hein. Et il dit « Je dis cela, c'est pas parce qu'il pense que le corps est mauvais qu'il dit ça. Il dit ça, je dis cela pour vous épargner des troubles, parce que les temps dans lesquels on vit sont des temps difficiles. Donc celui qui est marié, il aura des préoccupations particulières, etc. Donc il dit pas que c'est mauvais, il dit simplement que, voilà, je voudrais vous éviter de trop souffrir. Et donc, on a, on pourrait dire, donc, ce verset qui montre que parfois, eh bien, il est question de ne pas se marier. Puis aussi, concernant les aliments, 1 Corinthiens 8, vous rappelez, où l'apôtre Paul parle du fait de manger de la viande devant ceux qui ont la conscience faible, etc. Et puis, il termine son passage en disant, il dit, voilà, il faut faire attention, il faut pas gêner la conscience du frère qui est faible, etc. Et il termine son passage en disant, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, verset 13, 1 Corinthiens 8, verset 13, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc là, il fait quelque part un vœu d'abstinence sur la viande, il dit, je suis prêt à le faire, à ne pas manger du tout, jamais, rien que pour ne pas scandaliser mon frère. Il ne dit pas que manger c'est mauvais, qu'on ne devrait pas en manger parce que spirituellement, il dit, manger ça ne me rapproche pas plus de Dieu, ne pas manger ça ne m'éloigne pas plus de lui. D'accord? Mais il dit, mais je ne le ferai pas par amour pour mon frère parce que, bon, sa conscience est faible. Donc vous voyez qu'il y a des situations dans lesquelles l'abstinence n'est pas une mauvaise chose. Elle a une raison particulière. Et ce que Paul combat, ça n'est pas le jeûne, le fait de jeûner, hein, ou le fait de ne pas manger d'un aliment spécifique, ou le fait de ne pas se marier, mais c'est le fait de soulever cela, de le présenter comme une doctrine, comme une obligation qui va venir s'imposer à tous. Il dit là, non. Il dit, et surtout quand c'est présenté dans le but de la sanctification ou de la croissance spirituelle. Donc c'est ce qu'il dénonce ici. En Colossiens 2, 16, il dit ceci, hein, il dit, si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Il ne dit pas que ce sont des mauvais préceptes, il dit qu'ils deviennent pernicieux par l'abus qu'on en fait. Il dit, et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Okay? Donc il dit ici, hein, que ce n'est pas que c'est mauvais, ces choses sont mauvaises, on peut ne pas prendre quelque chose, ne pas goûter quelque chose pour une raison particulière, ici. Mais il dit, quand on l'impose aux autres, comme une doctrine que l'on doit suivre, là on est en train de propager une hérésie. Et il dit, il faut faire attention à ça, ce sont des principes, idées, doctrines d'hommes. Donc, on pourrait dire que Paul, voilà, il souligne, hein, les deux pieds, les deux portes d'entrée là de cette hérésie dans cette église, le mariage et la nourriture. Et comment il va réfuter cela? Alors regardez encore le verset 3, il dit, donc les faux docteurs, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ça c'est comment ils réfutent ce qui est avancé par les faux docteurs. Premièrement, il souligne que ces choses sont la création de Dieu et qu'elles sont toutes bonnes. Le mariage, c'est la création de Dieu. La nourriture, c'est la création de Dieu. Et ces choses sont bonnes. Lorsqu'on lit la Genèse, quand Dieu a créé le monde, il a dit, Dieu vit que cela était bon, hein. Et puis c'était très bon quand il a créé l'homme. Donc le mariage et la nourriture sont les créations de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu qui institue le mariage. Et donc c'est bon, tout ce qu'il fait est bon, parce qu'il est un Dieu bon, qui crée des choses bonnes. En Genèse 9, verset 3, nous lisons, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Donc c'est Dieu qui donne ces choses à l'homme pour qu'il puisse se nourrir. C'est Dieu qui voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qui institue le mariage. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alors bien sûr, on peut se limiter dans certaines choses que l'on va consommer, parce que, par exemple, on fait une allergie. Moi, je fais une allergie aux fruits. De plus en plus, je peux pas manger les pêches, les poires, les pommes, les ananas, les cerises. Si j'en mange une, ça y est, c'est fini, ça me gratte de partout. C'était pas comme ça avant, mais voilà. Alors maintenant, je les prends pas. Mais je reconnais que ce sont de bonnes choses, que ces fruits sont bons, d'accord? C'est-à-dire que le fait de ne pas toucher à quelque chose n'enlève rien à la qualité de la chose. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit que toutes ces choses que Dieu a créées, elles sont bonnes, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, sous aucun prétexte, d'accord? Comme n'étant pas bon. Okay. Bien sûr, on peut s'en abstenir si il y a nécessité, mais on doit les reconnaître toujours comme bon. Donc le mariage est bon, la relation sexuelle est bonne, dans le cadre du mariage, bien sûr, et la nourriture est bonne, parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Donc c'est la première chose qu'il souligne ici, quand on lit au verset 4, tout ce que Dieu a créé est bon. Et puis, deuxièmement, il souligne que les croyants sont les bénéficiaires des dons de Dieu. Regardez Verset 3, il dit, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Pourquoi et pour qui? Pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Et par qui? Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Autrement dit, il dit que toutes ces choses que Dieu a créées, il les a créées pour les fidèles, les croyants, lui. Ses enfants, c'est ce qu'on comprend ici, et qui connaissent la vérité. Ça, c'est quelque chose, une vérité qu'on ne souligne pas souvent. En tant qu'enfants de Dieu, nous pensons que toutes ces choses, le mariage, la nourriture, tout ce que Dieu donne dans sa création, il l'a fait pour ses enfants. Dieu, il ne mange pas. Il dit dans le psaume, j'oublie le 50, je crois, il dit, si j'avais faim, je ne le dirais pas. Il dit, Dieu ne mange pas, il n'a pas besoin de manger. Dieu est suffisant à lui-même, il n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur pour lui, d'accord? Donc, ces choses qu'il a créées, il les a créées pour ses enfants, pour les fidèles, pour qu'ils pour qu'ils soient pris, pas pour qu'ils soient négligés, il les a créées pour que ses enfants puissent en user. C'est ce que dit le verset ici. Donc, le mariage est fait pour que ses enfants puissent en user, la nourriture est faite pour que ses enfants puissent en user. D'accord? Alors, attention, en user, ça ne veut pas dire je vais me marier 15 fois. Comme ça, j'ai usé du mariage. De même que user de la nourriture, ça ne veut pas dire que je vais manger jusqu'à ce que mon ventre éclate. On est d'accord? Donc, vous comprenez bien, nous sommes des enfants de Dieu, nous comprenons ce que nous disons. Mais, ça veut dire qu'ils ne doivent pas être négligés. C'est déshonorer Dieu que de mépriser ces choses et de faire comme si elles étaient mauvaises. D'accord? Parce que tout ce que Dieu a créé est bon, et ici, Paul souligne que ses enfants sont les destinataires de ces choses que Dieu a créées. Par exemple, 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, regarde 1 Timothée, si vous tenez juste une page, 1 Timothée 6, 17, nous lisons ceci, 1 Timothée, chapitre 6, et au verset 17, nous lisons une recommandation que l'apôtre Paul demande à Timothée de faire à ceux qui sont riches. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu. Qui fait quoi, Dieu, ici? Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en puissions. Vous voyez ça ici? Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en usions, pour que nous en jouissions. Ici, c'est ce qu'il dit ici. Alors, il dit aux riches, c'est pas dans la richesse qu'il faut mettre sa confiance, mais dans le Dieu qui donne la richesse. Et puis, il faut savoir que cette richesse, elle est donnée pour en jouir, pas pour soi-même de manière orgueilleuse, mais aussi pour la partager et en faire profiter d'autres, l'user correctement ici. Et donc, on voit les croyants, ce que je voulais souligner ici dans cette partie, c'est que les croyants sont les destinataires des dons de Dieu. Troisièmement, dans ce que Paul réfute, il montre que les dons de Dieu doivent être pris avec reconnaissance envers Dieu. Vous voyez cela ici? Il le dit par deux fois. Il dit que ce sont des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. La gratitude. C'est pour ça qu'ils parlent, ils disent que ce sont des choses qui sont données à ses enfants pour qu'ils puissent en user. Et qu'en usant, ils rendent gloire à Dieu, ils rendent grâce à Dieu. Et cela s'entend quand ils rendent grâce à Dieu. Et Dieu est glorifié, Dieu est honoré parce qu'il est vu comme l'auteur de ces choses. Et l'enfant de Dieu remercie Dieu constamment pour ces choses. Donc la gratitude est l'attitude de cœur dans laquelle le croyant, qui par ailleurs connaît la vérité, comme on le lit ici, doit user de la création de Dieu. L'homme naturel non régénéré est caractérisé par l'ingratitude, l'absence de reconnaissance. C'est ce que l'Épître aux Romains nous apprend. Premier chapitre, il dit « Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. D'accord ? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc les croyants, en rendant grâce à Dieu pour la nourriture, le vêtement, le mariage, les enfants, le travail, eh bien, ils glorifient Dieu. Okay? Donc, bien sûr, Dieu, les enfants de Dieu sont les destinataires de ces choses pour qu'ils en usent, mais en usant avec action de grâce, ils glorifient Dieu. Et Dieu veut être glorifié de cette manière-là. Il donne des choses pour être glorifié. La fin, principale fin de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Donc, même lorsqu'il nous donne quelque chose, eh bien, quand on prend la chose de manière égoïste et puis qu'on s'en va, ça nous sert à rien. Mais tandis que quand on la prend et qu'on rend grâce à Dieu, il est glorifié. Alors, j'ai lu cette histoire dans un livre d'un personnage important plutôt, qui avait invité à sa table beaucoup de gens. Et puis les gens qui connaissaient de la grande société, puis ils mangent, et puis à un moment, il y a un pauvre gars qui rentre, je ne sais pas comment il arrive à rentrer là, mais il se met à table aussi avec les autres, et tout ça, et puis il mange. Et puis quand il a été bien, bien repu, il s'en va, sans dire quoi que ce soit, sans dire un mot. Et les convives disent à ceux qui ont dit, mais quand même, tu as vu ce bonhomme, il est rentré, il est mangé, et il est parti, mais sans rien dire, même pas un merci, quoi, tu vois. Et le chef de maison dit, mais il est en train de nous apprendre une leçon, il dit. Parce que nous mangeons comme cela à longueur de journée, est-ce que nous pensons remercier Dieu? Lequel d'entre nous a remercié Dieu pour cette nourriture que nous avons sur cette table, tu vois? Et donc il soulignait que voilà, ça nous offusque quand on voit cela, ça nous offense quand on voit une telle ingratitude de la part d'un être humain. Mais imaginez Dieu qui donne toutes ces choses et puis on les prend comme si c'était un dû et on s'en va sans dire merci. Sans dire merci, sans les prendre avec gratitude. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à penser à tout ce que Dieu nous donne, tous les domaines que ce soit ici. Et comment est-ce que nous les prenons? Est-ce que nous disons merci pour la nourriture, merci pour les frères et sœurs qu'il nous donne, merci pour le lieu de culte qu'il nous donne, merci pour le travail qu'il nous donne. Toutes ces choses, est-ce que nous regardons à Dieu avec toutes ces choses? Et puis considérer que toutes ces choses viennent de lui, ce sont des dons qu'il nous fait. Et est-ce que nous lui rendons grâce pour cela? On trouve cette attitude de rendre grâce avec le repas, beaucoup dans l'Écriture. Je voudrais lire dans Romains chapitre 14, verset 6, où l'apôtre Paul parle de ceux qui mangent de tout, et puis de ceux qui ne mangent pas de tout, et puis parfois des altercations qu'il y a entre les uns et les autres. Verset 6, il dit « Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur, et celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. » Autrement dit, il est en train de dire qu'il y a quelque chose dans le fait de rendre grâce quand on prend le repas ou quand on ou pour autre chose ou parce qu'on est marié ou parce qu'on a des enfants ou pour tout ce que Dieu nous donne. Hein, il dit quand celui qui ne mange pas, il dit il le fait pour le Seigneur parce qu'il rend grâce à Dieu. Le fait de rendre grâce témoigne que c'est pour Dieu que l'on fait la chose et qu'on est conscient qu'on a reçu cette chose de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 30 et 31, l'apôtre Paul dit si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Il ajoute, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Autrement dit, l'action de grâce signifie quelque chose hein, de la part du croyant qui connaît la vérité. Elle signifie qu'il agit conformément à ce qu'il sait être la vérité de Dieu. Il agit conformément au fait qu'il sait que ça vient de Dieu. Et que c'est lui qui m'octroie toutes ces choses. Donc, les dons de Dieu doivent être pris avec reconnaissance envers Dieu, dit l'apôtre Paul, pour lutter contre ces faux docteurs. Et puis, dernièrement, il dit que les dons de Dieu sont sanctifiés par la parole et la prière. Verset 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, la parole de Dieu sanctifie sa création. On a eu un enseignement sur la sanctification dimanche, hein, où on a compris que la sanctification, c'est le fait de mettre à part, hein, de mettre à part, de consacrer. Alors, on peut penser, puisque l'apôtre Paul parle de choses que Dieu a créées, c'est ce qu'il y a le plus proche dans ce qu'il est en train de dire, que quand il parle de choses qui sont sanctifiées par la parole, pense peut-être au fait que Dieu... La création tout entière est sanctifiée par la parole de Dieu. Elle est mise à part par Dieu. Elle n'existait pas. Dieu l'a appelée à l'existence et il l'a fait pour sa gloire. Donc, autrement dit, c'est quelque chose qu'il s'est consacré par sa parole. Le verset de Hébreux 11 dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc, Dieu a créé les choses, ex nihilo, hein, il les a amenées à l'existence. Il se les est consacrés ici, eh bien, on peut dire que les choses, toutes ces choses sont sanctifiées par sa parole puissante. L'œuvre de la création consiste en ce que Dieu a fait par sa parole puissante, et en l'espace de 6 jours, toute chose, à partir de rien, est parfaitement bonne. Ce sont des choses saintes, bonnes qu'il a consacrées. Et puis, il dit aussi que ces choses sont mises à part par la prière. On sous-entend ici probablement la prière d'action de grâce. Comment est-ce que le croyant sanctifie, la prière du croyant sanctifie, elle n'apporte rien à la chose telle qu'elle est déjà, d'accord? Mais c'est comme s'il la met à part aussi pour Dieu. Donc, quand on rend grâce à Dieu pour ce que l'on a, on voit ces choses comme venant de Dieu. Et l'apôtre Paul, je relis le passage de Romains, il dit, « Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. » Comment dit ? C'est comme s'il avait mis cela à part pour le Seigneur, parce qu'il rend grâce à Dieu. Donc la prière d'action de grâce est un moyen de sanctifier, de mettre à part, de dire qu'on a mis à part ces choses, elles appartiennent à Dieu, il me les a données. Pour moi, bien sûr, mais elles lui appartiennent. Et c'est une manière de considérer que c'est pour le Seigneur que nous faisons cela. Quand nous mangeons pour le Seigneur. Donc cela nous interpelle sur la manière avec laquelle nous mangeons, sur la quantité que nous mangeons, sur comment nous mangeons. Et sur toutes ces choses hein, ici. Juste un verset encore dans 1 Corinthiens chapitre 7, lorsque l'apôtre Paul parle aux couples qui sont mixtes spirituellement, dont l'un connaît le Seigneur et pas l'autre, ces gens posent aussi une question à Paul, est-ce que je dois rester avec mon mari inconverti ou est-ce que je dois rester avec ma femme inconvertie parce que maintenant, voilà, je suis régénéré. Je suis mis à part pour le Seigneur et lui, il n'est pas. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul répond ? Vous vous rappelez, il dit que le mari non-croyant est sanctifié par sa femme et la femme non-croyante est sanctifiée par son mari, ici. Autrement dit, en pensant à ça, je me suis dit, mais certainement parce que la femme croyante prie pour son mari, quelque part, et demande à Dieu des bonnes choses pour son mari. Donc, il est comme quelqu'un qui est mis à part. Hein. Lui, il ne se tourne pas vers Dieu, ne se sanctifie pas, mais elle ou le croyant hein, qui prie pour son conjoint non-croyant, eh bien, ou, et qui agit de manière juste envers son conjoint non croyant, eh bien, quelque part, dit l'Écriture, il sanctifie, il met à part ici. Hein, donc, dans sa prière, il le considère pour Dieu. Hein, il le veut pour Dieu. Il prie que Dieu puisse toucher son cœur. Donc, c'est une manière aussi de le sanctifier. Donc, je termine ici. Hein, Paul montre vraiment que pour assez croyants d'Éphèse, hein, qu'il faut rejeter absolument cette doctrine qui consiste à mépriser le mariage, ou à mépriser la nourriture, ou à mépriser quoi que ce soit que Dieu a créé. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Par contre, il ajoute qu'il faut qu'on en use, parce que c'est la volonté de Dieu qu'on en use. Et c'est déshonorer Dieu que de mépriser ces choses, de ne pas en user. Mais on doit en user d'une bonne manière, c'est-à-dire avec action de grâce, et aussi avec avec la prière, en nous basant bien sûr sur ce que la parole de Dieu dit de ces choses. Alors, juste une application pour nous, hein, nous devons être très attentifs à tous les domaines de notre vie, parce que on voit à partir de ce texte que l'apôtre Paul traite de problèmes d'hérésie à partir du mariage et de la nourriture. On aurait pu prendre dans notre temps moderne d'autres choses. D'accord? D'autres domaines. Il n'y a aucun domaine que le diable ne puisse pas utiliser pour pénétrer dans la vie du croyant et puis faire des dégâts. Donc nous devons être très attentifs sur toute chose, être au fait de ce que la parole de Dieu enseigne. On voit que l'apôtre Paul dit que tout ce que Dieu a créé est bon, c'est une référence à la Genèse, hein, où il montre que c'est Dieu qui a fait ces choses. Donc une bonne connaissance des Écritures est importante, une référence toujours à la parole de Dieu est très importante, mais nous devons être vigilants sur tous les aspects de notre vie. La nourriture, quand on sort pour manger, quand on mange, tout cela sont des choses qui peuvent être des pierres d'achoppement. La Bible parle des acceptables, hein. La Bible parle des acceptables, hein. En même temps, elle nous invite à manger, mais elle parle des acceptables, qui est un péché. D'accord? Donc vous voyez, la Bible parle de l'adultère, qui est le péché que l'on commet dans le mariage, hein. Donc, vous voyez, ces choses sont bonnes, mais le diable sait les utiliser pour y faire pénétrer le péché et pour distordre la bonne marche de ces choses. Donc, le croyant doit être vigilant sur tous ces domaines, dans tous ces domaines, et être très attentif à vivre comme le Seigneur veut qu'il vive, qu'il ait une attitude de gratitude envers ce que Dieu donne. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu donne à tout le monde d'être marié, on voit dans l'Écriture cela, mais ce n'est pas pour cela que le mariage doit être dénigré. La société dénigre le mariage. L'enfant de Dieu doit user de ces choses avec beaucoup de respect pour ce que Dieu a fait, beaucoup de gratitude dans tous ces domaines-là. Voilà, que le Seigneur nous aide dans ces choses et puis qu'il nous aide à vivre pour lui, être de bons témoins, hein, des bonnes choses qu'il nous donne et que nous apprenions à le louer aussi. Pensez, c'est pour nous, pour ses enfants, que Dieu a créé ces choses. Voilà, on va s'arrêter là et prendre quelques sujets dans les minutes qui nous restent.